réplique le grand déménagement du monde avec Hervé Le Braz et Renaud Camus. Autour du pot. Certains auditeurs doivent être stupéfaits, choqués et même indignés que pour parler de la question migratoire, j'invite Renaud Camus. Par ses prises de position de plus en plus radicales, celui-ci, selon eux, s'est exclu de lui-même de la conversation civique. Il pense donc que je prends une lourde responsabilité en lui ouvrant aujourd'hui le micro de France Culture. Avant d'interroger mes deux invités, je voudrais répondre à cette accusation silencieuse et assourdissante. Il se trouve que Renaud Camus, qu'on entend et ne voit plus nulle part, a forgé une expression qu'on entend tout le temps et partout, le grand remplacement. Certaines personnalités qui ont pignon sur rue, comme Éric Zemmour et Yvan Rioufol, la reprennent explicitement à leur compte. D'autres, plus nombreux, en contestent fermement la pertinence, comme tout récemment encore, Régis Debray, qui disait, dans un entretien accordé à la Revue des Deux Mondes, « Je ne crois ni au grand remplacement, ni à la soumission. » Et puis, il y a ceux qui en font un drapeau. « Nous sommes le grand remplacement », écrivaient les célèbres kids du Bondy Globe, Meklat et Badrou, dans la revue qu'ils ont lancée avec Mouloud Achour, Téléramadan. Ce qui leur a valu les chaleureuses félicitations du romancier Édouard Louis, alias Eddy Bellegueule, depuis le temps qu'on lutte et qu'on espère le grand remplacement de la vieille France, bravo Meklat et Badrou. Bref, Renaud Camus n'a plus voix au chapitre et il est sur toutes les lèvres. En lui donnant la parole, j'ai voulu mettre fin à l'anomalie de cette absence omniprésente. Et ce qui a achevé de me décider, c'est la reprise critique de ce syntagme obsédant par le démographe Hervé Le Braz dans les deux livres qu'il vient de publier, « L'âge des migrations » et « Malaise dans l'identité ». Le temps de l'explication me paraît donc venu. Qu'est-ce que vous entendez par grand remplacement, Renaud Camus?
Eh bien, le grand remplacement n'est ni une théorie, ni un concept, ni une notion. C'est un nom. Si l'on veut quelques vernis scientifiques, on peut dire que c'est un syntagme, au même titre que la guerre de Cent Ans, la Fronde, la Révolution française, la Restauration ou les Trente Glorieuses. D'autres noms seraient possibles et peut-être tout à fait aussi pertinents. On peut parler de la submersion migratoire, on peut parler de la substitution ethnique, on peut parler de façon plus agressive de l'invasion, du changement de peuple et de civilisation. Et bien entendu, tout ce genre de noms pour un phénomène, en l'occurrence pour le phénomène que je considère comme étant de très loin le plus important de notre époque, et en ce qui concerne la France et même l'Europe, le plus important, sinon de toutes les époques, du moins des 10 ou 15 derniers siècles, tous les noms sont imparfaits. La guerre de 100 ans, tous les historiens se font un plaisir pour faire remarquer qu'elle n'a pas duré 100 ans, mais 107. Les 30 glorieuses, on pourrait facilement souligner qu'elles ont aussi quelques aspects assez piteux. Mais ce nom qui m'est venu quasiment par hasard, peut-être par référence plus ou moins inconsciente au grand déplacement des Acadiens au XVIIIe siècle, ce nom a deux avantages à mes yeux, outre celui que, comme vous l'avez souligné, il a eu un certain succès, c'est qu'il se décline facilement. D'une part, je crois que les protagonistes actuels essentiels de la situation en France et en Europe sont les remplacés d'une part, les remplacistes qui sont le pouvoir et les remplaçants, et d'autre part, et surtout, j'en suis arrivé, et c'est ce qui m'occupe de plus en plus dernièrement, à ce qui, alors là, contrairement au grand remplacement, est bel et bien un concept, c'est-à-dire le remplacisme. Je crois très profondément que le remplacisme est l'idéologie la plus agissante aujourd'hui dans le monde. Je parle même de remplacisme global. Ça, c'est un concept. Et j'imagine, je ne veux pas m'étendre maintenant sur ce que serait le remplacisme global, mais je crois en effet que le fait que tout soit remplacé par autre chose est le phénomène essentiel de la modernité ou de la postmodernité, et que cela constitue un des deux totalitarismes principaux et rivaux à l'œuvre aujourd'hui dans le monde.
Nous parlerons du remplacisme global. Renaud Camus, simplement, ce que vous désignez comme les remplaçants, ce sont les immigrés venus majoritairement, si j'ai bien compris, du Maghreb, c'est-à-dire d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, parce que dites-vous, comme d'autres, une immigration de peuplement a succédé à une immigration de travail, et il peut y avoir, et on le voit dans certaines régions, substitution démographique du fait de cet afflux continu. Je vous ai bien compris.
Oui, d'Afrique essentiellement, l'Afrique dans son ensemble. À des termes de substitution possible et que j'assume absolument, bien qu'il choque profondément, mais si vous voulez, je pourrais m'étendre là-dessus, est celui de colonisation. Je crois que l'Europe est beaucoup plus profondément colonisée qu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique, d'une façon beaucoup plus profonde, puisque, pour rendre hommage à mon vis-à-vis, elle est essentielle parce qu'elle est démographique.
Très bien. Donc, je pense que nous avons compris. Hervé de Braz, comment réagissez-vous à cette description, à ce nom?
Peut-être contrairement à Renaud Camus, je vais, mais en utilisant ses propres termes, je vais essayer de dire comment il définit le grand remplacement. Et je vais donner deux citations de votre livre sur le grand remplacement. L'une, page 165, où vous dites « Vous avez un peuple, et presque d'un seul coup, en une génération, vous avez à sa place un ou plusieurs autres peuples. » Et pour préciser votre pensée, auparavant, dans la première partie du livre, page 48, vous dites « Les vieillards sont français de souche, mais les nourrissons sont arabes et noirs et volontiers musulmans. » Alors, si vous voulez, en tant que démographe, ou même, je dirais peut-être plus justement, en tant que scientifique, hein, il faut bien mettre les choses sur la table, je suis polytechnicien d'origine, donc j'ai une habitude des chiffres et du raisonnement. Cette dernière citation ne marche pas du tout avec les données qu'on possède et que publie l'INSEE sur l'origine des naissances. Il se trouve que depuis plusieurs années, notamment l'année dernière, l'INSEE publie l'origine des naissances selon que les parents et grands-parents sont immigrés ou non immigrés. Et quels sont les chiffres, hein, donc, puisque vous dites que tous les nourrissons sont arabes et noirs.
Non,
vous avez... Mais les nourrissons, les nourrissons sont arabes et noirs, les. Vous parlez de... C'est assez général.
Et tendance.
Alors, ouais, mais vous allez voir de quelle tendance il s'agit. C'est ça que je vais préciser avec l'aide des chiffres de l'INSEE. Vous avez 10% des naissances de l'année dernière qui sont des naissances dont les deux parents sont immigrés. Ce qui ne veut pas dire étrangers. Certains... 40% des immigrés sont français. Un immigré, c'est né étranger à l'étranger, mais ça ne présage pas de la nationalité actuelle. Vous en avez 60% dont les deux parents et les deux grands-parents ne sont pas immigrés. Mais, et c'est ce qui m'intéresse, vous en avez 30% des naissances de l'année dernière qui ont un parent ou un grand-parent ou plusieurs grands-parents immigrés. Et c'est ça qui est en train de se reproduire. Donc je ne suis pas contre l'idée d'un grand remplacement, mais le grand remplacement qui est en train de se produire, c'est pas du tout, comme vous le dites, d'un peuple par d'autres peuples, c'est le grand remplacement d'une population relativement sédentaire, et on reviendra là-dessus parce que l'immigration est beaucoup plus ancienne et il y a beaucoup d'origines, mais c'est ce remplacement par une population d'origine mixte. Et le fait majeur qui arrive actuellement en France et qui est en train de s'étendre aussi aux États-Unis dans la plupart des pays développés, c'est la mixité des unions, donc la mixité des origines. Et donc, bien sûr, on va vers... Ce remplacement d'une population qui avait l'habitude, au fond, d'ailleurs pas complètement, mais d'avoir des unions dans un cercle relativement fermé par une population qui a des unions sur une échelle, on peut dire, planétaire. Oui, là, vous avez un grand remplacement, je pense, et je pourrais le développer, notamment avec les plus récentes découvertes archéologiques, que ce grand remplacement est particulièrement utile à l'humanité et au progrès de l'humanité. Mais ça sera une question qu'on abordera sans doute plus tard. Mais dans un premier temps, vous voyez, il n'y a pas, je conteste le fait que vous dites que des peuples remplacent des peuples. Non, ce qui est en train de se produire, c'est une population d'origine mixte est en train de remplacer une population qui était, non pas d'une origine fermée, mais d'une origine moins mixte, plus homogène.
Renaud Camus.
Alors j'aurais tendance à élargir le débat, si je puis dire, et à contester la notion de chiffre. Moi, je suis en accord très profond avec le philosophe Olivier Rey, qui souligne l'incapacité du chiffre à rendre compte du monde. Depuis 40 ans, nous avons été submergés par les chiffres, les sciences humaines. Je crains de plus en plus que les sciences humaines ne soient une aporie, un oxymore. Il y a une contradiction, et tant mieux peut-être. L'homme se dérobe de toutes parts aux chiffres, et les chiffres ont été incapables de rendre compte de ce qui survient. La sociologie, non seulement n'a pas averti la population française et la population européenne de la chose énorme qui se présentait, ce phénomène gigantesque, ce que j'appelle le changement de peuple et de civilisation. Mais au fur et à mesure qu'il se déroulait, elle l'a nié, elle a été la dénégation par excellence. Je vous donne un exemple de l'incapacité des chiffres à rendre compte du monde. Si vous voulez, qui serait emprunté à cette émission, ça avait beaucoup frappé à l'époque, vous receviez Alain Finkielkraut, un grand philosophe français, qui tout d'un coup a dit, à ma grande stupéfaction, il était que c'était une émission sur le mariage. Et il disait, oui, mais le mariage a beaucoup changé parce que au 19e siècle, on se mariait pour 5 ou 6 ans. Stupéfaction totale de ma part, mais il explique, oui, parce que la durée de vie moyenne vers 1830 était à peu près de 35 ans. Stupéfaction totale. Alors, en effet, c'est vrai, la stupéfaction. Enfin, je ne suis pas tout à fait exact, mais c'est un peu plus. Mais mettons que ce soit vrai. Mais on sait bien pourquoi. C'est parce que il y avait une mortalité infantile considérable et que du coup, la durée de vie moyenne était 35 ans. Mais c'est complètement faux. Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? C'est la littérature. Qu'est-ce qui dit la vérité? C'est la littérature. On voit bien que les personnages eux-mêmes ne vivent pas si brièvement. Et si on ne veut pas croire les personnages, la réalité des personnages de romans, il n'y a qu'à prendre l'histoire littéraire elle-même. Chateaubriand meurt à 80 ans, Victor Hugo à 83, Corneille à 82, Voltaire
à Fontenelle, Paul Parpal,
pour ne rien dire de Fontenelle qui meurt à 100 ans. Donc les chiffres, et c'est une bonne chose, n'arrivent pas à rendre compte du réel, mais ont été dans une dénégation permanente, surtout sur l'effondrement de l'école, où on les a prouvés chiffres à l'appui que pas du tout le niveau montait, ce que plus personne n'ose dire évidemment aujourd'hui, qu'il n'y avait aucun lien entre l'immigration et la délinquance, et que ce phénomène énorme et qui crève les yeux, et à mon avis crève le cœur, n'arrivait pas, ne survenait pas, parce qu'évidemment, on peut toujours les calculs en disant évidemment que tout le monde est français, puisqu'on a été naturalisé à tour de bras. Donc, pardon.
On mélange tout, là.
Non, mais attendez.
Parce que je voudrais répondre de façon précise.
Je vais vous poser une question précise.
Ce qui vient d'être dit, je voudrais répondre même sur l'exemple qui a été donné de l'espérance de vie à 35 ans. Là, je peux répondre très facilement, si vous voulez.
Mais répondez brièvement et je vous poserai une question précise.
Alfred Sauvy disait « Le chiffre est un être fragile qu'il faut traiter avec précaution ». Et quand on dit l'espérance de vie à 35 ans, vous avez raison que c'est l'espérance de vie à la naissance. Mais bien entendu, tous les démographes et les gens un peu cultivés savent qu'on considère, dans des questions comme les écarts d'âge ou décès des membres d'un couple, les espérances de vie à leur âge au mariage. Et là, les espérances de vie au 19e siècle, quand une personne se mariait, étaient de l'ordre de 40 ans. Donc, les 6 ans sont totalement fantaisistes. Donc, les chiffres sont très importants et j'y reviendrai, mais il faut bien les traiter. Il faut pas, comme ça, les prendre en vitesse pour les critiquer.
Alors, dans l'exemple que je donnais.
L'exemple que vous donniez, qui est trop rapide.
Question. Oui. Je crois que c'est une maxime de Nicolas Gomez-Davila, je ne l'ai pas retrouvée, donc je la cite de mémoire. Les mots du menteur rougissent parfois, mais les chiffres du statisticien n'ont jamais honte. Mais j'en viens à une question plus précise, Hervé Lebras. Précisément, c'est-à-dire, on dit, vous parlez de mixité. Oui. C'est la mixité qui est le phénomène essentiel de notre temps. Et on a dit beaucoup que la France, justement, se caractérisait par le nombre de mariages mixtes. Un Français avec un étranger. Or, on peut constater que la plupart de ces mariages entre croisant la nationalité française et une nationalité étrangère sont ethno-culturellement endogames, ce qui donne à la mixité effectivement un tout autre sens. Deuxièmement, et j'ai sous les yeux votre livre, L'âge des migrations. Et ce qui est étonnant, c'est que là, l'illustration de couverture aurait pu être choisie par Renaud Camus pour Le Grand Remplacement, puisqu'on y voit deux aquariums avec peints dessus des continents et des poissons qui sautent de l'un à l'autre. Là, on se dit, oui, c'est ça, le remplacisme global. Donc, il me semble à vous lire, en effet, que dans l'âge des migrations, vous contestez l'expression de grand remplacement, mais d'une certaine manière, vous dites la même chose avec un autre langage, Hervé Lebras.
Sur le point des unions mixtes, beaucoup de chiffres ont été publiés qui ne vont pas du tout avec ceux de Madame Tribala. Il y a plus, effectivement, de mariages que vous pouvez appeler ethno-culturels, mais les chiffres qui sont donnés tournent autour de 20%. Et si vous voulez, j'avais fait un calcul pour la France, les mariages ethno-culturels bretons, c'est du même ordre de grandeur. Là, il n'y a pas de quoi s'étonner, si vous voulez. Alors, sur la question de ce remplacement. Oui, il y a un mouvement, moi je l'appellerais plutôt circulation, mais je le montre dans mon ouvrage assez précisément. Ce mouvement, il a deux composantes. Il a une composante dont vous parlez beaucoup, Renaud Camus, qui est l'arrivée d'immigrés, mais il a une autre composante dont on ne parle jamais, qui est le départ des Français. Si vous prenez les statistiques actuelles, je reviendrai sur les statistiques, parce que, ou juste d'un mot, c'est pas en vous promenant dans la rue que vous pouvez avoir l'idée de ce qui se passe dans 550 000 km² et pour 65 millions d'habitants. Vous avez aucun moyen de le savoir, tous les biais sont là. C'est l'histoire de l'homme qui arrive en Angleterre, qui voit une Anglaise rousse et qui dit à sa femme au téléphone, toutes les Anglaises sont rousses. Donc les statistiques sont très utiles quand on veut avoir l'idée de la situation d'un grand pays. Quand on veut avoir l'idée de la situation d'un village, les statistiques ne sont absolument pas utiles. Et là, on peut exactement se promener, voir, regarder. Mais vous ne pouvez pas vous promener dans les 550 000 km² et contacter les 65 millions d'habitants. Alors revenons sur le point principal. Le point principal, c'est que si vous prenez les 10 dernières années, qu'est-ce qui se passe en France? Quand vous regardez le solde migratoire, c'est 50 000 personnes. Ça a l'air d'être rien du tout, 50 000 personnes pour 65 millions d'habitants, on est très bas. Mais, et ça, c'est l'INSEE a fait un progrès. L'INSEE a décomposé le solde migratoire en départ, selon qu'il s'agit de Français ou d'étrangers. Et là, la figure est la suivante, grosso modo. Vous avez à peu près, disons, 250 000 arrivées d'étrangers, donc beaucoup. Vous avez de l'ordre de 100 000 départs d'étrangers, donc beaucoup aussi. Vous avez à peu près 200 000 Français qui quittent la France chaque année, mais vous en avez 100 000 seulement qui reviennent. Autrement dit, les 50 000 du solde migratoire, c'est le résultat de la perte de 100 000 Français, si on peut dire, 100 000 Français qui quittent la France. Alors on les appelle des expatriés, mais quand ils arrivent au Canada, on les appelle des immigrés. Et puis de l'autre côté, 150 000 qui arrivent. Donc dans ce sens-là, vous avez effectivement un remplacement, mais c'est pas un remplacement de peuple par d'autres peuples, c'est un remplacement démographique, et c'est un remplacement qui est alors, et c'est ce que je cherche à montrer dans mon livre, qui est lié au fonctionnement de plus en plus général des migrations dans le monde, et notamment si ces Français partent, c'est à ce point-là qu'on peut réfléchir, c'est parce qu'il y a des raisons d'ordre mondial.
Renaud Camus.
Deux choses en réponse à ce que vous venez de dire. D'abord, vous en appelez à la pertinence de la sociologie, des statistiques, de la démographie.
Pas la sociologie, les statistiques.
Qui dirait, bien, les statistiques, qui diraient la vérité du monde. Mais c'est exactement le drame que je souligne. Et c'est un des aspects de ce que j'appelle le remplacisme global, un des éléments remplacés, et le remplacement de l'œil par les statistiques, de l'expérience d'un peuple, de ce qu'il vit, de ce qu'il voit quotidiennement, de ce qu'il éprouve, de sa douleur même qu'on lui ravit, qu'on ne veut pas supporter, en lui disant non, les statistiques s'opposent à ce que vous dites. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui arrive en Angleterre et qui, à la première rousse, conclut que toutes les Anglaises sont rousses. Mais il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit d'un peuple qui vit dans son pays et qui vit tous les jours, et pas seulement dans certaines villes, mais désormais absolument partout, qu'il y a eu une substitution ethnique, qu'un autre peuple est présent, qui change absolument tout, c'est-à-dire le paysage, le rue, la façon d'habiter le monde, la façon de se nourrir, de se vêtir et d'habiter. D'autre part, de façon assez...
Est-ce que vous allez un peu loin en disant substitution ethnique ? Il y a des lieux, en effet, en cours, qui ont beaucoup changé.
Je ne dis pas qu'elle est parachevée.
Qui ont beaucoup changé, mais...
Elle est visible partout. Elle est visible absolument partout, en particulier dans les transports en commun. De façon assez comique, ce que dit M. le professeur Lebras, au fond, confirme presque en tout point ce que je dis. Il dit il ne faut pas parler seulement des immigrés, il faut parler des gens qui quittent la France. Mais bien entendu, c'est ça le grand remplacement, c'est qu'il y a aussi des gens qui quittent la France. Et pourquoi un certain nombre d'entre eux quittent la France ? Pas tous, bien entendu, mais beaucoup d'entre eux, parce qu'ils sont horrifiés de douleur et de chagrin de voir leur patrie occupés par des peuples qui sont dans un processus de conquête.
Ils sont donc particulièrement défaitistes, là.
Mentionnant tout particulièrement nos compatriotes juifs, oui. Dont on parle peu des départs qui vont s'accroissant parce que leur sécurité n'est plus assurée sur le territoire
de la France. Je voudrais poser une question à Renaud Camus, si vous permettez, Hervé Lebras, et ensuite vous interviendrez, et bien entendu, le temps qu'il faudra. Parce que vous dites, Renaud Camus, vous avez utilisé le mot « occupé ». Et c'est là-dessus que je voudrais vous questionner. Parce que, face à vous, ceux que vous appelez les remplacistes invoquent souvent l'exemple des années 30 pour précisément nous interdire de voir ce que nous voyons en disant « mais on fait aujourd'hui le même sort aux musulmans qu'aux juifs, c'est absolument scandaleux, tout discours d'alarme est mis sur le compte du fascisme ou du maurrasisme renaissant. Mais vous utilisez la même analogie à front renversé, si j'ose dire. Vous parlez d'occupation, de collaboration pour les remplacistes, et vous appelez à la résistance. Et d'autre part, notamment dans votre livre « Le grand remplacement », vous dites qu'on vous accuse, à tort, d'entretenir la haine. Rien n'est plus éloigné de vous que ce sentiment-là qu'on vous impute. Et là, je suis quand même un peu surpris. Non, je vous crois sur parole. Mais l'occupation, c'était précisément, Albert Camus l'a très bien montré, c'était précisément engendrait chez la plupart des Français, et notamment chez les résistants, un sentiment de haine extrêmement fort. Et dans un texte de 1946, Albert Camus, pardon, appelle à refaire notre mentalité politique et à nous guérir, il appelle les Français à se guérir de cet héritage empoisonné, la haine, venue de l'occupation. Et il dit « La critique ne doit jamais rejoindre l'insulte ». Je voudrais citer également René Char, un texte absolument extraordinaire de 1943. « Je veux n'oublier jamais que l'on m'a contraint à devenir, pour combien de temps, un monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur claquemuré, un personnage arctique, qui se désintéresse du sort de quiconque, ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer ». Et là, en plus, c'était une occupation par des gens en uniforme et auxquels les résistants vouaient une haine farouche. Là, il s'agit, si je vous comprends bien, d'une occupation, mais par des gens qui ne portent pas d'uniforme.
Comment,
avec une telle analogie, ne pas provoquer une haine que certains jugeront salutaire à l'égard de tous les immigrés qu'ils verront, qu'ils croiseront, arabes ou noirs. Donc, il me semble contradictoire de votre part de dire d'un côté que la haine vous est complètement étrangère et de vous appuyer pour décrire le moment que nous vivons sur cette analogie incendiaire avec les années noires. Renaud Camus.
écoutez, il faudrait vraiment une demi-heure pour répondre à toutes les questions qui sont impliquées par ce que vous venez de dire. La question de la haine, il se trouve que moi, personnellement, je suis très peu porté sur la haine. Il me semble que dans mes livres, dans mes textes, il n'y a pas de sentiment de haine. Et vous dites que les résistants éprouvaient de la haine. Ils éprouvaient de la haine pour l'occupant qui torturait. Mais, par exemple, il y a de grands germanistes qui ont été des résistants exemplaires. Ils n'avaient pas de haine pour l'Allemagne ou pour la culture allemande.
Non, mais pour l'occupant.
Oui, pour l'occupant. Moi, je n'éprouve pas de la haine, mais j'éprouve ce sentiment qu'ont éprouvé à travers l'histoire tous les peuples à l'égard d'autres peuples qui sont en train de les conquérir. Est-ce que Jeanne d'Arc éprouvait de la haine? Je ne crois pas. Non, le mot me semble tout à fait déplacé. Cela dit, je reconnais que la formule ridicule aujourd'hui, chaque fois que des gens se font massacrer, on dit « vous n'aurez pas ma haine », me semble absolument ridicule. Peut-être qu'il serait bon qu'on éprouve au moins de la fureur et un sentiment de refus. Moi, je ne parle pas de haine, mais de refus. D'autre part, la référence aux années 30 a en effet complètement changé de camp. C'est une des victoires idéologiques, si l'on peut dire, des gens qui pensent comme moi, que en effet, nous sommes du côté de la résistance à un totalitarisme qui vient, qui s'affirme et qui ne cache pas du tout ses desseins. Comme le précédent. Les deux occupations ont évidemment un grand nombre de différences. Elles ne se ressemblent pas en tout point, loin de là. En revanche, les deux collaborations se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et quand vous dites les deux, l'occupation la dernière fois était en uniforme, le nouveau ne l'est pas, mais l'uniforme, on le voit de plus en plus. L'uniforme, ce qui montre l'insolence, la force, la provocation de l'occupation, c'est le voile, c'est le niqab, c'est l'abondance de signes qui sont destinés à montrer le pouvoir, la présence, la conquête et l'humiliation du peuple qui doit subir ça. Quand on se pense que maintenant, en Belgique et en Angleterre, il va y avoir des femmes de la police voilées avec un uniforme dessiné spécialement, mais avec le voile. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un comme ça vous demande vos papiers? Moi, je dois dire, là, j'entre en résistance totale. Il n'est pas possible, je ne peux pas concevoir, ça serait une humiliation trop forte que je présente mes papiers à une femme policier en voilée. C'est pas possible.
Oui.
Révélez-moi.
Je trouve, si vous voulez, que la discussion mélange pour l'instant un peu tout. Moi, j'ai l'habitude de discussions scientifiques, donc on prend un argument et puis on commence à, au fond, à le serrer. Et je trouve d'ailleurs, si je dois vous faire une remarque, Renaud Camus, c'est que quand on lit vos livres, on est surpris d'une chose, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune référence. Et quand vous faites des citations, je pourrais en donner un exemple dans un instant, elles sont fausses. Et vous ne les vérifiez pas. Donc, je donnerai un exemple si vous me laissez ensuite le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir d'abord la science? Alors, vous allez dire, oh là là, un grand mot. Si notre époque, c'est pas l'époque du grand remplacement principalement, c'est pas l'époque de l'ethnicité ni des religions, notre époque, c'est l'époque de la science. Le fait majeur dans nos sociétés, c'est l'arrivée de la science. Si on est ici, si je parle avec vous devant ce micro, c'est bien parce que on a inventé un micro, on a inventé la radio. Si je suis venu en taxi, c'est parce qu'on a inventé les voitures. La science on est plongé dans la science. Et si on est plongé dans la science, c'est que la science a une méthode qui est relativement rigoureuse. Il y a bien sûr des critiques possibles de la science,
mais sur le même plan les sciences humaines et les sciences exactes.
Alors qu'est-ce que c'est que être les à peu près humaines. Scientifique dans les sciences humaines? C'est d'abord arriver à cerner des faits, partir des faits. Le point de départ n'est pas la statistique, comme vous le dites. Le point de départ, c'est des faits. Pourquoi est-ce qu'une fois qu'on a cerné des faits, on émet des propositions sur ces faits? On fait des généralisations. Pour faire ces généralisations, il faut justement éviter ce que vous recommandez, qui est de se promener dans la rue et d'avoir le sentiment de ceci ou de cela. Il faut arriver à avoir une vue qui ne soit pas biaisée. Alors, les faits, on peut les critiquer. La manière dont ils sont mesurés, on peut les critiquer. Mais on ne peut pas critiquer le fait qu'on doit procéder à des généralisations si on veut avoir, au fond, un débat dans lequel on se comprenne. Alors maintenant, comment on arrive à ces faits. Ben, je suis d'une école, j'ai commencé comme mathématicien, mais je suis maintenant plutôt historien, surtout comme disciple de Carlo Ginzburg ou de Giovanni Levi, c'est-à-dire de la microstoria, qui est, je pense, la grande école scientifique qui est apparue il y a une vingtaine d'années dans le domaine de l'histoire. Et qu'est-ce qu'est la microstoria? On part justement du point de vue local, très petit, le très beau livre de Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. Il part vraiment du procès qui a lieu au XVIe siècle d'un meunier qui est accusé d'athéisme. Mais ensuite, c'est pour en tirer quelles peuvent être les lignes à généraliser. Et ensuite, on généralise et on généralise en général avec des statistiques. On dit voilà ce qu'on a pensé être juste dans mon analyse du meunier, dont j'ai oublié le nom, mais vous devez vous souvenir de son nom peut-être, Alain Finkielkraut. Eh bien, ce que j'en tire, je vais voir si c'est généralisable. Et c'est ça le travail scientifique, si vous voulez. Quand vous me dites à un moment dans votre livre, page 56, à quelqu'un qui dit dans le métro à 6 heures du soir, combien de fois d'ailleurs j'ai entendu ça, je suis le seul blanc au Châtelet. Je passe au Châtelet très souvent, j'ai fait des mesures du nombre de personnes à l'œil qui sont au Châtelet à 6 heures du soir, là où je prends le métro, et ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de blancs.
Hervé Lebras, quand même, c'est Michel Tribala qui parle, qui ne reprend pas à son compte le terme de grand remplacement, mais qui parle pour l'Île-de-France de substitution démographique, et il est vrai que notre paysage a changé. Et oui. Par exemple, je lisais un entretien dans le Figaro avec Guy Roux, un entraîneur qui n'est pas réputé pour être
un intellectuel,
un progressiste à tout craint. Dans un premier temps, il nous explique que si Benzema n'est pas sélectionné en équipe de France, c'est parce qu'il est victime du racisme, ce qui, compte tenu de la composition de l'équipe de France, paraît un peu tiré par les cheveux, pour le moins. Mais surtout, il a cette phrase comme ça en disant aujourd'hui en France. Si vous enlevez les joueurs musulmans, c'est Guy Roux qui parle, vous aurez du football à 7. Écoutez, c'est la France d'aujourd'hui, ce n'est pas France d'il y a 20, 30 ans, ou a fortiori
il y a 40 ans. Était polonais, d'origine.
Nous voyons ce qui se passe. Oui, l'œil ne se trompe pas complètement. Oui. Alors, en tirer les conclusions analogiques que fait Renaud Camus, je l'ai dit, je suis en désaccord, mais on ne peut pas non plus nier cette espèce de mutation qui est celle de ce que vous appelez vous-même l'âge des migrations. Il s'est passé quelque chose en Europe d'extraordinairement spectaculaire, et d'ailleurs, tous les étrangers qui visitent l'Europe le disent, les touristes sont surpris, et le raidissement d'ailleurs d'un certain nombre de pays d'Europe centrale vient de là. Et il ne s'agit pas simplement de la Hongrie d'Orban, il s'agit aussi de la République tchèque social-démocrate, et j'ai entendu un ancien associé de Václav Havel dire « je ne veux pas que Brno, la ville tchèque, ville de naissance de Kundera, au demeurant, devienne la Marseille d'Europe centrale. C'est bien donc qu'il s'est passé quelque chose en France, et ce quelque chose, vous le reconnaissez par ailleurs, Hervé Lebras.
Oui, ce quelque chose, je reconnais absolument dans ce que je vous ai décrit de ce départ actuel des Français, de cette arrivée des étrangers. Bien sûr, il se passe quelque chose. Simplement, ce qui se passe, c'est une diversité beaucoup plus grande, mais cette diversité est de plus en plus liée à une mixité qui se répand des origines. Donc bien sûr, la personne que vous rencontrez, qui est l'enfant d'un Camerounais et d'une Française, ou bien l'enfant d'une Chinoise et d'un Français, n'a pas votre aspect extérieur. Donc vous avez effectivement le sentiment qu'il y a un changement. N'empêche que ce sont, on peut le dire, des Français, et ceux, même les immigrés qui ne sont un peu plus récents, le deviendront tôt ou tard. Nous avons tous dans notre passé un passé, si nous fouillons un petit peu, on remonte 2-3 générations. Si vous remontez à quelques générations, Alain Finkielkraut, vous avez des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin, et moi aussi, et tout le monde. Donc progressivement, bien sûr, on peut discuter, est-ce qu'il faut une génération, est-ce qu'il faut, moi je pense qu'il faut assez peu de temps pour quelqu'un de cultivé pour arriver à acquérir d'acquérir une bonne culture française. Et il faut savoir aussi que ceux qui arrivent actuellement, et là c'est important, et je le souligne dans mon livre, sont maintenant des gens éduqués, c'est-à-dire on a une vision. Vous critiquiez les années 30 à juste titre en disant c'est pas maintenant comme les années 30. Mais surtout pour l'immigration, c'est pas maintenant comme en 1970, ça n'a plus rien à voir. Quand vous prenez la statistique des personnes, des 250 000 personnes étrangères qui ont reçu un titre de séjour l'année dernière, dont j'ai parlé tout à l'heure, la proportion de ceux qui ont le bac ou bien un diplôme du supérieur, c'est 65%. Vous pouvez le vérifier. La proportion de ceux qui viennent du Maroc qui ont ceci, c'est 60%. De Tunisiens, c'est 65%. D'Algériens, c'est 55%. Alors vous allez me critiquer mes statistiques, me dire que ça vaut rien. Si, ça vaut quelque chose. C'est plus des travailleurs analphabètes qu'on était allés chercher au fin fond des Aurès et au fin fond du Maroc. Et ces gens-là arrivent, ils parlent un bon français. Et ces gens-là s'intègrent très facilement, mais oui, par un bien meilleur français que beaucoup de prolétaires du Pas-de-Calais ou du Berry, je vous l'assure.
Renaud Camus.
Je suis vraiment enchanté de l'idée que vous avez eue de nous mettre l'un en face de l'autre, car on ne peut pas imaginer d'opposition plus frontale en tout point. Monsieur le professeur Le Bras dit « Vous n'êtes pas scientifique ». Et en effet, je ne suis en rien scientifique, mais je dis que la science, et en particulier les sciences humaines, la sociologie, la statistique et sans doute aussi la démographie, ont totalement failli. Et c'est la science elle-même que je mets en cause. D'ailleurs, la science, au fond, il faut bien voir, la science a toujours été, à toutes les époques, du côté du pouvoir. On n'a jamais découvert que ce que le pouvoir voulait qu'on découvrît. Et tout ce que la science a dit de l'évolution, qu'il s'agisse de l'école ou qu'il s'agisse du changement de peuple et de civilisation, a été en accord avec l'idéologie dominante, ce que j'appelle le remplacisme global. Vous dites que je dis n'importe quoi parce qu'il n'est pas exact qu'il y ait seulement un Français à 6 heures du soir à Châtelet. Alors évidemment, il faut comprendre, c'est une expression qui d'ailleurs, c'est Richard Millier qui disait ça, je crois. Alors peut-être qu'il y en a 30, peut-être qu'il y en a 50, peut-être qu'il y en a 50. Je crois que c'est très inférieur à la moitié.
Des Français, là,
quant à l'histoire
des, blancs,
des intellectuels, des astrophysiciens, des savants qui débarquent, enfin, vous ne pouvez pas ravir à un peuple son regard, son expérience et à ses femmes. Par exemple, allez dans le 18e arrondissement de Paris, vous verrez si ce sont des astrophysiciens, ce sont des gens qui
alors justement,
je voudrais quand même un mot sur. Non, un mot. Je regrette de vous le dire, mais il se trouve que j'ai même fait la critique d'épistémologie et d'histoire des sciences dans les colonnes du Monde à une époque. Je connais assez bien l'histoire des sciences. C'est un argument d'autorité que j'utilise pour la première fois. Ce que vous dites de la science est complètement faux. Il suffit de prendre le cas de Galilée, de Giordano Bruno, etc.
J'allais le dire, je n'ai pas eu le temps. Il y a des exceptions.
Bon, ce n'est pas des exceptions, c'est le cas général.
Non, c'est très rare.
La science va toujours au contraire des idées. La science va au contraire des idées dominantes, c'est son problème.
Non, jamais. Elle a presque toutes les découvertes.
Lisez tous les grands historiens des sciences.
Par exemple, vous servez éminemment les idées dominantes.
Alors justement, Renaud Camus, vous êtes très minoritaire, mais il me semble aussi que vous êtes plus solitaire que vous ne devriez l'être. Parce que j'ai lu attentivement Le Grand Remplacement, il se trouve que j'ai lu récemment La France Soumise, le livre dirigé par Georges Bensoussan, où il parle de l'émergence de deux peuples en France, et il y a une préface d'Elisabeth Badinter, très forte, disant « Le déni de réalité est un cancer ». Une seconde société tente de s'imposer insidieusement au sein de notre République, tournant le dos à celle-ci, visant le séparatisme, voire la sécession, le tout avec notre complicité active ou passive. Or, malgré cette espèce de convergence, vous êtes de plus en plus seul. Et il y a une injustice, mais je crois, d'une certaine manière, que vous y contribuez. D'une part, par cette analogie que je continue à discuter, votre réponse était en effet très intéressante, mais d'autre part, par certains tweets.
Je tiens plus au rapport à la colonisation qu'à l'occupation.
Oui, même la colonisation. Ah, et à ce moment-là, vous citez Fanon. Mais Franz Fanon, les damnés de la Terre, comme le montre Jean-Paul Sartre dans sa préface, c'est un appel à la violence, à une violence rédemptrice. Et il y a cette citation terrible de Sartre, « En le premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Ce n'est pas Franz Fanon qui le dit, mais c'est Sartre dans une préface. à un livre, Les Damnés de la Terre, qui est une apologie de la violence, et cette violence, on a
vu qu'elle a pu donner... Moi, je n'appelle nullement à la violence. Je suis le président du plus petit parti qui ait jamais existé, qui s'appelle l'innocence, c'est-à-dire la non-nocence.
Oui,
mais j'appelle à la libération, au mouvement de résistance
et de libération. Mais la libération sans violence, bon.
Alors, de préférence, sans violence. Mais si il ne peut y avoir, en effet, de libération, je suis dans la lignée de tous les combats anticolonialistes. Je pense que nous sommes colonisés.
Choisir Fanon, c'est un choix particulièrement radical.
C'est pas du tout pour son appel à la violence, c'est pour la description merveilleuse qu'il fait de l'effondrement des structures dans le pouvoir colonial. Or, ça correspond exactement à ce que fait le remplacisme global, qui fait s'effondrer toutes les structures d'une société pour favoriser l'interchangeabilité des hommes.
Deuxième difficulté.
La famille, la culture, l'école, tout ça s'effondre pour permettre le changement de peuple et de civilisation.
Alors, deuxième difficulté, vous dites dans le livre d'entretien que vous avez fait avec Philippe Cassanti qu'entre l'Afrique et l'Europe, le naufrage, c'est triste à dire, est devenu un moyen de transport comme un autre. Quand on embarque pour faire naufrage, sur des embarcations prévues pour s'en renverser, en tout cas pour n'aller pas loin, et que guettent les flottes de sauvetage en des points convenus, on n'est pas sauvé en mer, on est réceptionné comme le matériau qu'on est, le matériau pour le remplacisme global. Là, je vous entends, mais je me dis que là, on pourrait explorer, si vous voulez, la différence abyssale, la contradiction entre la morale de responsabilité dont vous vous réclamez et une morale de conviction dont les conséquences peuvent être déplorables. Or, ce n'est pas ce que vous faites dans certains tweets. Et c'est ces tweets qui vous isolent et qui fait que vous ne vous retrouvez pas du côté de ceux qui réfléchissent avec Bensoussan, des professeurs, des policiers, des infirmières, etc. Vous avez ce tweet qui m'a, je dois dire, secoué, Renaud Camus. Il n'y a pas de migrants secourus, il y a des envahisseurs réceptionnés par des traîtres. C'est les gens qui les sauvent en mer sont peut-être aveuglés, mais ils font
mais
ça.
Mais ce sont ceux qui leur ont demandé de s'embarquer. Croyez que ce n'est pas organisé.
Il y a un échange global. Vous voudriez quoi qu'on ne les sauve pas.
Bien sûr.
Mais je voudrais
qu'on ne les encourage pas à s'embarquer. C'est criminel.
Mais
on dit quel est le message qu'on envoie à toute l'Afrique. On leur a dit embarquez-vous.
Et on leur dit le contraire.
Mais non. On leur dit bien sûr.
Bien entendu.
On leur fait comprendre qu'ils seront reçus et ils le sont.
Mais ceux qui sont sur les bateaux,
des avantages pour une nuit.
Ceux qui sont sur les bateaux.
Est-ce qu'au Japon, en Australie, il y a des naufrages en mer? Non, il n'y a aucun naufrage. On pourrait très bien arrêter les naufrages en mer du jour au lendemain. Il est absolument criminel d'encourager ces gens
Régler le problème de la Libye, c'est très simple. Vous avez raison qu'on peut arrêter très facilement les départs. C'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle les accords de voisinage. Les accords de voisinage ont été conclus, mais ils étaient conclus avec des États qui existent. C'est-à-dire ils ont été conclus par la France et par l'Espagne, notamment avec l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et maintenant le Sénégal. Et il n'y a plus personne qui arrive aux Canaries, ou bien à Gibraltar, c'est un très mince filet. Par contre, grâce au président Sarkozy et à ses encouragements par Lévy, on a détruit l'État libyen. Et l'État libyen, c'est la faille actuellement qu'il faut contrôler. Mais il n'y a pas de complotisme là-dedans. Nous n'encourageons personne. Et nous avons fait, je dirais, l'État français et l'État espagnol ont tout fait pour stopper à la source ces arrivées avec les accords de voisinage.
Mais attendez, alors là, justement, je vais interroger Hervé Lebras. Parce que j'ai appris une chose dans votre livre absolument passionnante. Ce qu'on pense spontanément, c'est que viennent en Europe les plus pauvres, les réfugiés politiques, bien sûr, enfin ceux qui fuient les guerres, c'est une définition déjà très élargie du réfugié politique, et ceux qui fuient la misère. Et ces hommes, ces femmes et ces enfants faméliques, on se dit en effet qu'on ne peut rien faire d'autre que les accueillir. Or, il se trouve que vous nous dites dans votre livre que les gens qui émigrent viennent souvent des classes moyennes. Et à ce moment-là, on se dit, mais quoi faire? C'est-à-dire, pour que les gens puissent vivre quand même chez eux, et pour que l'Afrique, justement, sorte du marasme où elle est aujourd'hui, il faut que les cerveaux restent. Mais vous nous dites même, les accords de co-développement ne serviront à rien, puisque les enfants des classes moyennes viendront, non pas d'ailleurs, attirés par les diasporas, ce qui risque de leur éviter aussi l'épreuve de l'intégration. On est un peu affolé par les informations scientifiques que nous donne votre livre.
Oui, je vous donne, vous faites un résumé, un exposé tout à fait clair de la situation. Je ne suis pas du tout optimiste. On va devant des migrations massives, mais pas des migrations massives de pauvres, de miséreux, des migrations massives de gens qui ont un bagage intellectuel, pour une raison que j'indique d'ailleurs dans le livre et qui est très simple, c'est que quand vous avez un bagage intellectuel, vous pouvez l'emporter avec vous. C'est très simple. Quand vous êtes un paysan dans un coin perdu d'Afrique, vous pouvez pas emporter votre maigre troupeau ou bien votre champ. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans les cas de déstabilisation très forte auxquels on assiste depuis une dizaine d'années en Afrique, par exemple au Soudan, au Darfour? On voit personne du Darfour arriver à Paris. Les Soudanais qui arrivent, c'est des Soudanais de Khartoum ou du Nord. Les gens du Darfour, moi je les ai vus, ils sont dans des camps à 50 au Tchad, à Béché, à 50 kilomètres de la frontière soudanaise, et ils attendent de revenir. Il y a 500 000 personnes, dans 500 000 Somaliens, dans des camps à la frontière du Kenya et de la Somalie. C'est pas les pauvres qui migrent. Les pauvres, on est allé les chercher dans les années 70 en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Mais sinon, les pauvres n'ont pas les moyens de venir. Ils n'ont pas. En plus de ça, c'est plus en plus difficile. On a des chiffrages du coût pour un Africain d'arriver en Europe. Ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Mais vous avez raison sur le constat. Comme il y a eu une énorme montée de l'éducation dans le monde, on a maintenant... Je vais donner un chiffre, mais oui. Ah ben, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais actuellement, en 1970, au Maroc, il y avait 25 000 étudiants. Il y a 950 000 étudiants maintenant au Maroc. Mettons qu'ils soient moins bons que les 25 000 d'autrefois, je vous l'accorde.
Mais pourquoi ne restait-il pas dans ces pays-là pour précisément permettre à ces pays d'atteindre un niveau, un autre niveau de vie, le mécanisme et sortir de la gabegie, de la tyrannie,
oui,
etc.
Oui, le mécanisme devrait bien sûr avoir une haute conscience morale, mais ce qui se produit, c'est que dans ces pays, si je prends le cas du Maroc, assez largement, comme vous le savez, il faut avoir des relations avec le palais, grosso modo. Autrement dit, dans ces pays-là, le recrutement des diplômés est encore un recrutement des enfants des classes supérieures. Et maintenant, l'enseignement, par exemple au Maroc, c'est les classes moyennes et sous-moyennes dont vous trouvez des ingénieurs, par exemple, qui sont bons, des ingénieurs marocains, mais ils n'ont aucun moyen de trouver du travail. Ils sont même souvent remplacés par des enfants de la grande bourgeoisie qui ne sont pas très compétents. Donc, ils se présentent sur le marché mondial du travail. Alors, ils vont au Canada ou ils vont en France, ils vont là où il y a du travail, là, au fond, où ils peuvent se réaliser. Une remarque qu'avait faite Philippe Farr, qui dirige Population Migration Center à l'Université européenne de Florence. Il a dit, il y a 30 ans, on migrait pour nourrir sa famille. Et maintenant, on migre pour se réaliser. Et c'est cette clientèle. Et cette clientèle va poser d'énormes problèmes parce qu'on voit mal, justement, les migrations. On croit que c'est des miséreux, incultes, etc. Mais ça va être des concurrents.
Vous me dites, les migrants ne sont pas miséreux. Ça ne correspond pas du tout à mon expérience. Oui, à ma vision, très bien.
Ça correspond à mes statistiques.
On nous dit en France qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, et j'imagine que quand même beaucoup arrivent de l'extérieur. Mais peu importe, seraient-ils tous professeurs de faculté en astrophysique? Ce que je refuse, c'est le changement de peuple.
Qu'est-ce que vous appelez un peuple? Parce que c'est la question initiale.
Il est un peu tard dans l'émission pour cela.
Non, mais c'est quand même depuis le temps que j'entends ce mot.
Oui,
en tant que démographe, j'ai cherché comment on pouvait définir ce mot peuple. J'ai cherché depuis Hérodote, et c'est pas simple de définir un peuple. Et j'aimerais bien avoir une définition un peu près précise de ce mot très mystérieux qui est peuple, parce qu'apparemment, vous ne tolérez pas dans peuple la question de la mixité par laquelle j'ai commencé. Or, qu'en est-il de la mixité avec vos fameux peuples?
Je suis obligé, là, il nous reste, je crois, très peu de minutes, on va pas se lancer là-dedans. Alors, non, je dirais précisément que c'est quelque chose qui ne se définit pas. Je suis assez peu favorable, par exemple, au terme d'identité. Je me sens pas du tout identitaire. Les poilus de la guerre de 14, ils ne défendaient pas la France parce qu'ils étaient identitaires. Ils disaient parce qu'ils étaient français. Ce que Berlanos appelle le profond murmure. Voilà ce qu'est un peuple. Une appartenance à laquelle on peut très bien se rattacher, d'ailleurs. La France a toujours intégré les individus. Elle ne peut pas intégrer des peuples. Mais moi, je ne veux pas du changement. Alors, disons de population, si le mot de peuple vous blesse. Je regrette qu'on n'ait pas le temps de parler de ce que j'appelle le remplacisme global, qui me semble le phénomène essentiel de la modernité aujourd'hui, où la figure centrale, les deux figures centrales, à mon avis, dans la généalogie que j'ai essayé d'évoquer, sont d'une part Frederick Taylor, et en particulier le terrible Henry Ford. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui tient à la normalisation, le remplacement de tout. Or, comme par hasard, Henry Ford est à la fois antisémite et pro-nazi. Et il y a une continuité entre le remplacisme global. C'est pour ça que je dis c'est la pire, le pire totalitarisme à l'œuvre aujourd'hui. C'est le fait que tout soit remplaçable, y compris l'homme. Dans votre livre, au fond, vous parlez de l'homme. Vous écrivez 140 pages pour écrire l'histoire de l'humanité sur 40 000 ans, mais vous parlez de l'homme comme si c'était des insectes. L'homme n'est pas une matière humaine interchangeable. C'est quelque chose qui appartient à un espace, à un ciel, à une culture, à une langue, qui ne peut pas être interchangée. Le remplacisme global veut l'homme remplaçable, c'est-à-dire la matière humaine indifférenciée, ce qui est un héritage terrible de la révolution industrielle poussée dans ses dernières extrémités. Je crois que quand on voit les horribles boîtes à hommes des métropoles comme Hong Kong, où les gens vivent dans les espaces où ils ne peuvent même pas se tenir debout, au fond, on envisage toujours la Shoah comme un attentat contre le peuple juif. Et c'est très juste, parfaitement légitime. Mais il faut voir aussi maintenant, de plus en plus, les camps de concentration, les camps de la mort, comme un attentat contre l'homme. Et en ce sens, je ne veux absolument pas diminuer son caractère unique et spécifique, bien, bien loin de là. Mais c'est une espèce de, peut-être, de premier essai qui est toujours en train pour réduire l'homme. Alors eux le réduisaient au savon. Et le remplacisme global le réduit, oui, à la matière humaine indifférenciée, ce qui peut être échangé comme
en
ça.
En parlant d'éducation, j'ai au fond dit le contraire et montré que ces insectes n'étaient que tous les insectes n'étaient pas, pour reprendre Orwell, aussi insectes les uns que les autres.
Bon, bah écoutez, très bien. Je vous remercie l'un et l'autre pour cette discussion qui aurait pu se prolonger, qui a été très vive, mais qui est restée, et je vous en remercie, tous les deux courtoises. Donc, il me reste à renvoyer au titre de vos livres respectifs. Hervé Lebras, vous avez publié « Malaise dans l'identité » aux éditions Actes Sud, ainsi que « L'âge des migrations » aux éditions Autrement. Renaud Camus, il y a un livre d'entretien avec Philippe Larsenti à la maison d'édition 2017, « Dernière chance avant le grand remplacement, changer de peuple ou changer de politique ?» Et je renvoie aussi à votre livre « Le grand remplacement, introduction au remplacisme global » chez l'auteur, ainsi qu'au dernier volume de votre journal 2016, « L'insoumission » également chez l'auteur. Donc on peut commander ces deux livres, j'imagine, sur Internet. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pour toujours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'Amérique et nous ». Mes invités seront Régis Debray et Philippe Roger. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Julie Garraud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.